Donc je vais vous présenter en deux parties, comme c'était convenu, je pense. Mais si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser après la fin de la première partie. Je crois qu'on aura un petit entracte avec des esquimaux. La température, ce serait bien. Et donc, voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions, hein, parce qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu compliquées. Voilà. Donc, voilà, on donne traditionnellement octobre 1517 comme début de la réforme. C'est donc, il y a plus de 500 ans maintenant, il y en a 501 ans bientôt, là. C'est donc le début, c'est donc lorsque Luther affiche sur une porte d'une église à Wittenberg des documents qui condamnent, on s'appelle les 95 thèses, qui condamnent violemment le commerce des indulgences, on en reparlera tout à l'heure, mais aussi tout ce que l'église officielle fait. C'est un moine, et il n'a pas la pensée dans un premier temps de sortir de l'église catholique. Il faut bien comprendre que dans les premiers temps, les réformateurs n'avaient pas du tout la pensée de sortir de l'église. Ils voulaient réformer, d'où leur nom. Mais c'est l'église catholique qui les a chassés, hein, qui les a persécutés. Donc Luther a vraiment à cœur de faire connaître la Bible. La Bible, à l'époque, n'existe qu'en latin. Moi, quand j'étais gamin, j'ai servi la messe en latin. Et il n'y avait que le latin. Et Luther va avoir à cœur de traduire la Bible en allemand. Donc c'est la première fois, en Europe tout au moins, que la Bible sera traduite dans une langue populaire. Voilà. Donc, bien entendu, cette traduction était strictement interdite. L'Église catholique voulait avoir l'autorité sur les gens au travers d'une langue. On se connaît bien ce système, hein, pour diriger les gens, avoir une langue, ça donne, que les autres ne comprennent pas, ça donne une autorité. Voilà. Donc, c'est ce que Luther va faire. Alors, comment appréhender le sens de cette révolution spirituelle qui a été la réforme en France et en Europe? Mais il n'y a pas qu'en Europe, il va y avoir des conséquences aux États-Unis et aussi en Afrique du Sud et dans d'autres pays du monde. La réforme va donc avoir un impact. Alors, selon ce que l'on est, historien ou philosophe ou sociologue, l'étude de la réforme est très différente. Alors, ce qui est remarquable aussi, quand je parle de l'histoire, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs dans un conflit. Les vainqueurs vont donc être l'Église catholique, il faut dire ce qui est. Donc, l'histoire de la réforme est très mal connue parce qu'on en parle très peu. On parle très peu, surtout que c'est quand même une tache très noire dans l'histoire de la France. Et on peut dire qu'on a passé sous silence vraiment l'histoire de la réforme. Et vous allez voir ce que je vous expliquais. Je pense que vous allez découvrir quelque chose de terrible qui s'est passé dans notre pays. Alors donc, pour nous, pour moi, tout au moins, la réforme, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas du tout le hasard ou quoi que ce soit. Pour moi, la réforme, c'est le résultat de la compassion de Dieu envers l'homme. Et elle a été dirigée et menée par la main même de Dieu. Et on va voir, effectivement, que la réforme est venue graduellement dans un plan établi par Dieu pour que, enfin, les hommes... Comme le Christ l'avait dit, ma parole sera répandue jusqu'aux extrémités de la terre, alors que là, elle était confinée dans un pays ou tout au moins dans une église. Donc, il va y avoir un cheminement, on appelle ça les quatre éléments précurseurs de la réforme. Alors, le premier, il faut savoir qu'à cette époque-là, l'église, il y avait tout récemment à la télé, je pense que vous avez vu l'histoire du pape Borgia. C'est abominable, on se dit, mais c'est pas possible. Il avait des femmes, il avait des maîtresses, enfin, c'était quelque chose d'incroyable. L'Église, à l'époque, est minée par des abus de toutes sortes, aucune réforme à venir, et la soupe est trop bonne. On ne veut surtout pas changer quoi que ce soit pour profiter du système. Alors, donc, la hiérarchie du clergé est complètement ne peut apporter aucune aide aux âmes, selon leurs besoins. Les prêtres sont pauvres, peu instruits, tandis que le haut clergé vit dans l'opulence grâce aux revenus des charges ecclésiales. Voilà. Et cette charge ecclésiale, ce n'est pas un désir spirituel de la personne, c'est pour avoir de l'argent. On achète une charge ecclésiale, sachant qu'il y aura des revenus de la population qui donnent de l'argent pour ces gens-là, un évêque ou autre. Donc tout est mené pour avoir surtout beaucoup de biens. Donc on achète la charge d'évêque ou on la vend. Moi, je ne veux plus être évêque, je la vends Mais bien sûr, il y a un prix. Donc tout est complètement mené par l'argent. Les évêques, en particulier, essayent d'avoir aussi un rôle politique, comme ça a été le cas pour Richelieu et Mazarin et les autres. Donc vous voyez, absolument aucun désir de servir l'homme, comme devraient être des gens qui font profession de foi. En plus de ça, il va y avoir quelque chose de terrible qui va se passer à ce moment-là, c'est la peste. Alors, il va y avoir ce fléau, va être terrible, va causer la terreur, puisque entre 1346 et 1353, donc en l'espace de quelques années, 7-8 ans, il va y avoir à peu près 30 à 50% de la population européenne qui va mourir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 30 à 50% de la population européenne va mourir, donc à peu près 25 millions de victimes. La mort est partout, les gens meurent de partout, toutes les classes sociales sont touchées, et souvent, quand les gens souffrent, mais c'est un réflexe, peut-être positif, on a plutôt tendance à se tourner vers Dieu. C'est ce qui va se passer. Suite à cette terrible épidémie, les gens vont commencer à réagir en disant, mais demandant à Dieu du secours. Demandant à Dieu du secours. En plus de ça, il y a un autre événement terrible aussi, c'est la guerre de 100 ans. Vous avez entendu parler de ça à l'école, ceux qui ont été un peu à l'école. Voilà, donc la guerre de 100 ans, elle va faire à peu près 200 000 morts. Alors vous voyez déjà un peu le nombre de morts dues à la peste, puisqu'on pense qu'il y a à peu près 30 à 40% de la population européenne qui va mourir, dans toute l'Europe, hein, toute l'Europe, sauf quelques rares régions, et après donc la guerre de 100 ans. Alors la guerre de 100 ans, non seulement les gens meurent, mais il y a aussi tout ce qui est l'économie de guerre, le pillage, la rançon, les impôts qui induisent la misère, l'exode, la mortalité, etc. Donc le bon sens populaire à cette époque-là associe la guerre et la peste dans une même prière. Délivre-nous, Seigneur, de la faim, de la peste et de la guerre. Donc on voit vraiment que tous ces éléments vont faire que les gens vont avoir un désir de se tourner vers Dieu. Alors, ça, par exemple, c'est ce que vous pouvez voir à Notre-Dame de Paris, enfin à Lourdes, c'est pas la mienne. Donc, vous avez donc la vision de l'époque quand on arrive sur le fronton de Notre-Dame de Paris. Voilà ce qu'on voit. C'est-à-dire, c'est la pesée des âmes. C'est exactement comme dans la religion égyptienne. C'est-à-dire que la personne est pesée. D'un côté, vous avez un ange. D'un côté, vous avez un diable. Voilà comment on représente le diable à l'époque. Mais les gens ont une peur terrible de la mort et donc du jugement dernier. Bon, donc ils ont une peur terrible du jugement dernier et, comme on dit vulgairement, ils ne savent plus à quel saint se vouer. Donc on retombe dans un système, mais complètement opposé à ce que dit la Bible. Le salut n'est plus prêché. Simplement, le salut, c'est en fonction de paramètres, le bien qu'on a fait, le mal qu'on a fait, mais plus du tout selon ce que la Bible. Et donc on a un peu partout comme ça des représentations avec des thèmes qui sont illustrés dans les églises, des danses macabres, etc. etc. Alors, si vous allez à Notre-Dame de Paris, voilà ce que vous verrez. Et les gens, quand ils arrivent, parce que j'ai demandé, c'est assez grand, et les gens, quand ils arrivent, il n'y avait pas à l'époque une place aussi grande, il y avait une allée de d'arbres. Quand les gens arrivaient, ils voyaient ça. Imaginez un peu, nous, en tant que chrétiens qui avons des certitudes, la peur que les gens pouvaient avoir de pouvoir voir cela. Alors, ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est la vente des indulgences. C'est-à-dire que l'Église a besoin d'argent. Il faut terminer Saint-Pierre de Rome, ça coûte excessivement cher. Donc, on a la fausse croyance du purgatoire dans l'Église de l'époque. Et c'est un lieu intermédiaire hein, entre le paradis et l'enfer. Et on va donc vendre, littéralement vendre, et ça, c'était donc ce moine qui va donc mettre ce système au point avec, ici, donc, le pape, Louis X, des indulgences. C'est-à-dire que vous achetez, contre menu sonnante et trébuchante, vous achetez une indulgence. Alors, il y a un tarif. Ce tarif, je l'ai. Je l'ai retrouvé. Si vous avez tué et que vous achetez une indulgence à tant d'argent, ben vous passez, vous êtes exclu du purgatoire. Donc c'est un système entièrement basé sur l'argent. Autrement dit, ça va scandaliser les pré-réformateurs, et les réformateurs aussi, en particulier Luther. Et donc, ce moine-là va donc récupérer énormément d'argent. On le voit ici, hein, les gens arrivent pour mettre dans la caisse. Et donc, il disait, du feu brûlant, aussitôt que sonne votre obole, du feu brûlant, l'âme s'envole. Tout est barémé. Un viol est barémé. Si vous tuez quelqu'un, alors si c'est un ecclésiastique, c'est un peu plus cher, bien sûr. Tout est barémé. Et ça, c'est incroyable, c'est épouvantable. Les gens riches peuvent, entre guillemets, se permettre, à la limite, mais le monsieur tout le monde ne peut pas se permettre de racheter des années de purgatoire au travers de ce genre de manifestation. Et puis, deuxième chose, il va y avoir des hommes, qu'on appelle des humanistes chrétiens, qui vont retourner à la Bible. Il va y avoir, de la part, non pas du clergé, hein, mais de la part d'intellectuels, un retour à la Bible. Et bien entendu, ces hommes, l'un d'entre eux, c'est Jacques Lefebvre d'Étaples, c'est un Français, hein. Étaples, c'est une ville maritime dans le Pas-de-Calais, et lui, il se tourne vers la Bible, c'est un homme qui a à cœur de connaître la Bible, c'est pas du tout un religieux au départ. Hein. Donc, il veut propager l'Évangile. Il veut propager l'Évangile, et il écrit à un autre homme, Farel, « Ô Dieu de grâce, combien ma joie est grande de voir la connaissance pure de Christ qui se répand maintenant dans toute l'Europe. » Donc vous voyez, Dieu va susciter des hommes qui vont avoir à cœur de retourner à l'Évangile et de propager cet Évangile. Voilà, donc ça c'est Jacques Lefebvre-Étaples. Il y en a plusieurs, hein, je ne peux pas tous les citer. Bon, il y a bien sûr Guillaume Farel, hein, lui aussi. C'est un Français, il est de Gap, dans les Alpes-Maritimes, je crois. Voilà. C'est quelqu'un qui a vraiment à cœur de remettre l'Évangile et la Bible à la portée de tout le monde. Alors qu'un ecclésiastique n'aurait pas pu le faire. Ça aurait été interdit. Mais comme c'est des gens qui sont en dehors de l'Église, ils ont une certaine possibilité. Et puis, le plus connu de tous, Erasme. Alors, Erasme, lui, va faire un travail extraordinaire parce que c'est le premier qui va prendre le texte latin de la Vulgate, donc que l'Église catholique utilise, il va comparer aux textes qui viennent maintenant des textes anciens en grec, il va s'apercevoir qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout. Alors, ils ne vont pas du tout, c'est-à-dire que dans les traductions, en plus, même la traduction latine, il n'y a aucune certitude du salut. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des Bibles catholiques. Tout est au futur, ceux qui pourront avoir le salut. Il n'est pas dit, comme dans la Bible le dit, eh bien voilà, celui qui croit à la vie éternelle. Non, il est sur un chemin, etc. Donc, Erasme va reprendre tout ça. Et donc, lui, par ses écrits, alors c'est quelqu'un qui va aller partout en Europe. Hein, les jeunes connaissent le programme Erasmus, non? Ça vous dit quelque chose, le programme Erasmus? Mais on a pris son nom parce que c'est vraiment le précepteur de l'Europe. C'est un humaniste chrétien, pas un humaniste tout court, un humaniste chrétien, qui a à cœur vraiment d'apporter l'Évangile. Et puis, alors vous voyez comment Dieu agit, une révolution technique extraordinaire, l'imprimerie. Jusque-là, les Bibles étaient copiées à la main. Imaginez le temps qu'il fallait pour pouvoir copier une Bible. C'était très long, c'était des années. Et avec, bien sûr, des possibilités d'erreur à la copie. Et puis, une technologie nouvelle arrive, c'est l'imprimerie. C'est quelque chose d'extraordinaire, donc le système de l'imprimerie, on fait donc des petites lettres en plomb, et puis on les met dans une châsse, on met la feuille dessus, et on passe de l'encre, puis ensuite on peut donc imprimer sur la feuille. Donc ici, le premier livre que Gutenberg, puisque c'est lui qui l'a donc inventé, à Mayence, en Allemagne, eh bien, il va vouloir que le premier livre qui soit imprimé, c'est donc cette Bible en latin. Elle est toujours en latin, il n'y a pas encore suffisamment d'autres langues. Donc il va y avoir à peu près 150 exemplaires. Il y a eu un document que j'étais à Mayence, hein, moi-même, pour voir un peu tout ça. Je suis curieux. Hein. J'étais à Mayence, j'ai vu l'endroit où on dit que, etc. Mais il y a un musée, et dans ce musée, il y a une de ces Bibles merveilleuses. Hein. On n'a toujours pas compris comment Gutenberg avait pu faire, à cette époque, un texte aussi clair, des lettres si noires, sur un fond si blanc. l'imprimeur que tu es doit être intéressé par ça. On n'a toujours pas compris. C'est vraiment extraordinaire le papier qu'il avait et aussi, bien entendu, les lettres en plomb. Alors, il va y avoir, non seulement lui, c'est le début, mais après, il va y avoir une flambée d'imprimeurs. Et juste avant la réforme, il va y donc avoir en Allemagne, puisque tout ça c'est en Allemagne, 70 000 Bibles. Alors ça paraît peu, mais c'est quand même énorme. Et 100 000 Nouveaux Testaments. Voilà donc comment Dieu permet que ce plus grand des réveils de l'histoire spirituelle, eh bien, puisse se manifester. On pense que l'imprimerie a été, à cette époque-là, aussi importante qu'Internet aujourd'hui. C'était quelque chose d'extraordinaire. Bon, pour nous, un livre, c'est commun. Mais pour l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors, un grand penseur, Victor Hugo, nous dit « Avant l'imprimerie, la réforme n'eût été qu'un schisme. L'imprimerie l'a faite révolution. Gutenberg est le précurseur de Luther. » On ne sait pas, on ne peut pas savoir, si cette invention n'avait pas été faite, si la réforme aurait eu lieu. Comme il dit, ça aurait été qu'un schisme, comme il existait. Là, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'était absolument nécessaire pour que l'une des bases de la réforme, c'est le retour à la parole de Dieu, l'écriture seule. Alors, encore un pas supplémentaire, si je puis dire, voyez, comme quoi, comment le Seigneur a tout préparé. Moi, je suis en admiration. Il n'y a pas que pour ça, hein. Mais je suis toujours en admiration. Il y a des choses qui me... Là, par exemple, on est en train, dans l'Assemblée, d'étudier le livre des Actes. Et puis, bon, bah, alors Paul va à telle synagogue. Je dis, c'est super. Oui, mais les synagogues, c'était dans le plan de Dieu. En réalité, quand Jérusalem a été détruite, les Juifs, ils ne pouvaient plus aller à Jérusalem. C'était le lieu parfait pour les trois grands pèlerinages, si je puis dire. Où aller où pour adorer Dieu? Alors les Juifs ont eu cette pensée pendant la période dite du silence, là, entre Malachie et Matthieu, là, 4 siècles, de dire de se regrouper. Et en se regroupant comme ça, ils ont donc créé ce qu'on appelle les synagogues. Et quand vous lisez le livre des Actes, mais Paul, dès qu'il y a une synagogue quelque part, il y va. Hein, et il annonce donc l'évangile. C'est pas par hasard. Parce que si les synagogues n'avaient pas existé, ben Paul, il aurait été où? À la mairie? Chez le boucher, je ne sais pas, enfin, où? Donc on voit très bien, toujours, quand on regarde un peu les textes, si on regarde avec un peu ce désir de comprendre, comme un enfant qui essaie de comprendre les choses, on dit pourquoi, ben que Dieu fait tout à merveille, quoi. Donc la synagogue, mais il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait, on va pas en parler maintenant, mais plein de choses qui montrent comment Dieu a un plan de bénédiction pour les hommes. Alors, c'est les pré-réformateurs, alors il y en a plusieurs, hein. Donc, le plus important, c'est Valdo, Pierre Valdo, qui, en France, au XIIe siècle, c'est-à-dire 3 siècles avant la réforme, c'est un riche soyeux de Lyon qui, lisant l'Évangile, va être profondément touché. Il va commencer un travail énorme d'annonce de l'Évangile et ce qu'on appelle les Vaudois. Peut-être avez-vous entendu parler de ça, des Vaudois. Et alors, donc, ils vont aller une expansion extraordinaire en France, bien sûr, en Italie, en Allemagne, en Hongrie, en Pologne. Toutes ces régions-là, Pierre Valdo va donc, et les Vaudois vont donc commencer à annoncer l'Évangile. Immédiatement, ils vont être persécutés, ils vont être excommuniés au Concile de Vérone, et puis on va commencer à les persécuter. Tous ceux qui ont voulu faire avancer la cause de l'Évangile ont été systématiquement persécutés. Systématiquement. Donc les Vaudois rejettent le purgatoire, les indulgences, enfin toutes les choses que l'Église catholique veut donner. Et comme je disais tout à l'heure, ils ont été très très gravement persécutés. Voilà, donc les persécutions et de l'Inquisition, hein, comment on faisait à l'époque pour faire abjurer les gens de leur foi. Et puis donc les Vaudoises étaient comparées à des sorcières, Et vous savez quel était le sort des sorcières à l'époque, hein, elles étaient brûlées vives. C'est terrible, hein, c'est terrible, terrible, terrible. Et puis, à un moment, donc, il va y avoir dans la région du Luberon, où il y avait énormément de Vaudois, un massacre de à peu près 3000 personnes. 3000 personnes. Et ces gens-là ont la foi. Pour moi, il y a... Bien sûr, c'est qu'un début. Ils étaient encore... Vous voyez, par exemple, ils allaient encore à la messe. La réforme, c'est pas du jour au lendemain la lumière totale. Hein. On verra tout à l'heure, d'ailleurs. On n'a pas été jusqu'au bout. Loin s'en faut. Mais déjà, ils prêchent le salut par la foi. Déjà, ils prêchent l'œuvre de Christ à la croix, etc., etc. Et lui, comme il est de Lyon, il va traduire le Nouveau Testament en occitan. Ah oui, là-bas, à Lyon, à l'époque, on parle l'occitan, quoi, comme dans le Midi, quoi. Et puis, donc, dans ce Luberon, ça va être terrible, ces massacres. Et déjà, plusieurs centaines d'hommes vont être envoyés aux galères. J'en parlerai un peu tout à l'heure. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Bizarre, ça marchait très bien.
Tu es toujours sur ordinateur, le PowerPoint ?
Oui. Ben alors ? Je suis persécuté, oui. Je suis persécuté. Bon, déjà, on va voir ce que ça donne, c'est bizarre quand même. Mais... Non, ça, c'est tout à fait la fin. Alors là, il faut que je retourne tout à fait en arrière. Excusez, hein, je ne comprends pas trop ce qui s'est passé. Encore un peu, encore un peu. Ah, c'est bien d'avoir toujours quelqu'un, un pro. Non, encore là. Avant, encore avant, encore avant. Bon, voilà, ça, c'est bizarre quand même.
On va ressortir. Le plus simple, c'est de remonter ici.
Oui. Voilà, on y est presque là. Ah, ça y est, c'est encore un petit effort. Voilà, là, on a passé.
On va enfin partir de la diapositive actuelle. Voilà, et là, en avançant, ça sera bon.
On va retrouver Gutenberg. Ah non, on retrouve là, Victor Hugo, d'accord, oui. Donc je passe un peu. Ça, on l'a vu. Toc. Qu'est-ce qui a pu se passer donc ? C'est bizarre.
Il a dû frôler la touche centrale qui sort du.
Voilà. Donc, on a vu donc ces pré-réformateurs, et donc il va y avoir deux personnes importantes qui vont commencer à diffuser les idées de la réforme. C'est donc Luther et Zwingli. Lui, c'est un Allemand, je crois, ou un Suisse allemand. Qui donc va commencer à répandre l'évangile et les idées des réformateurs. Et puis, bien entendu, le grand Calvin, donc c'est un Français qui est né à Noyon, il va donc reprendre un peu toutes les idées des réformateurs de l'époque et essayer de faire un exposé systématique dans un livre qui s'appelle donc L'institution de la religion chrétienne. Voilà. Et la réforme est en plein boom, si je puis dire, et on pense qu'à l'époque, on va avoir à peu près entre 15 et 20% de la population française qui va être protestante, réformée. Donc vous voyez, c'est énorme. C'est vraiment une forte minorité, comme on dit. Alors, qu'est-ce que les piliers de la foi protestante, qu'est-ce que les protestants annoncent ? Ben, des choses que vous connaissez tous, hein. D'abord, l'écriture seulement. Seulement l'écriture, sola scriptura en latin. À l'époque, les gens de la hiérarchie ecclésiale parlent en latin. Bon, n'oubliez pas qu'on a parlé en latin, et encore aujourd'hui, dans certaines églises, on parle encore en latin. Les messes sont en latin. Moi, je me rappelle, je dis, enfant de cœur, je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Mais à certains mots, je comprenais qu'il fallait faire ça ou ça. Alors, j'avais une clochette, enfin bref. C'est des vieux souvenirs, mais bon, je ne comprenais rien. Puis ça ne me choquait pas. C'est drôle, hein, comment on peut accepter quelque part l'inacceptable, quoi. Bon, bref, donc, les Écritures seulement, la Bible est la seule et unique parole de Dieu. Il ne faut pas oublier que quand de donner ça comme thème de la réforme, c'était de se mettre automatiquement le clergé à dos, puisque vous savez que le clergé a ajouté ajouter tout ce que, dans l'histoire de l'Église, qu'on appelle la tradition. Hein. Par exemple, le purgatoire et bien d'autres choses qui ne sont absolument pas dans la Bible. Hein. L'Église catholique a toujours ajouté ou retranché des choses de la Bible. Et bien entendu, pour les réformateurs, c'est impossible d'ajouter ou de retrancher quoi que ce soit, comme il nous est dit. Ainsi, ta parole est la vérité, et puis, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit au verset de la Bible, à l'opposé de ce que l'Église catholique a fait, en particulier les œuvres, les prières et tout. Enfin, moi, je m'en rappelle. Je vous salue, Marie, et les Notre Père. Vous savez, ça a été pour moi très, très dur, c'est drôle. Hein. J'ai récité le Notre Père à la vitesse grand V. C'est-à-dire que quand j'allais à la confesse, je n'avais pas grand-chose à confesser. Peut-être piquer 3 billes à un copain. Donc le prêtre me disait, tu vas donc donner l'absolution et tu vas réciter donc un certain nombre de Je vous salue, Marie. Il y en avait beaucoup plus d'ailleurs. C'était 5 pour 1, je crois, à Notre Père. Et je débitais ça à toute vitesse. Parce que j'avais mes copains qui m'attendaient pour jouer au foot. Hein. Alors vous pouvez, j'étais un champion. Bon, je sortais en courant, bon. Quand j'ai découvert l'Évangile, plus exactement, quand j'ai découvert Notre Père, j'étais bloqué. Je n'arrivais pas à le lire. Parce que je ne pensais pas que c'était la parole de Dieu. Moi, j'ai compris que le Je vous salue Marie, ça c'est une invention, mais pas Notre Père. Et j'étais bloqué. C'était très très dur avant que je puisse à nouveau, même encore aujourd'hui quand j'en parle, vous voyez. C'était difficile, j'avais une forme de blocage. Tellement, dans l'Église catholique, le Notre Père était dévalorisé, alors que c'est une prière merveilleuse, quoi, que le Seigneur nous a enseigné. Voilà. La deuxième chose... Ah, pardon. Alors, combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes, donc ça, c'est pareil, hein, pour les réformateurs, c'est très important, hein, et on ne doit pas à rajouter quoi que ce soit, la foi a été transmise au saints une fois pour toutes. Alors là, vous avez une petite image de l'époque. Vous avez d'un côté les protestants, là vous avez Calvin, qui est là, là je pense que c'est Luther, bon, ou un autre, bref, je ne connais pas tous ces messieurs. Et de l'autre côté, vous avez l'Église catholique, avec le pape, les évêques et tout ça. Et donc il y a une balance, d'un côté il y a la Bible, et de l'autre côté il y a tous les attributs de l'Église catholique, la tiers papale, les clés, etc., etc. Et vous voyez, ils essayent de, mettant un bien gros, quelqu'un de, un peu quoi, d'un tripotant là, comme étaient les moines de l'époque, et même il y en a un autre qui tire dessus, regardez, même détacher les pieds du sol, mais vous voyez, eux ils sont tranquilles, ils devisent gaiement, tranquillement entre eux, ils savent que très bien que la parole de Dieu c'est le plus fort. J'aime énormément cette image parce qu'elle est d'époque. Voilà. La deuxième chose, c'est Solus Christus, par Christ seulement. Jésus-Christ est le seul et unique sauveur donné de la part de Dieu aux hommes. Ça, c'est très important parce que vous savez peut-être que par les saints et par la Vierge, on peut avoir aussi un chemin vers Dieu. Savez-vous que, depuis quelque temps, Marie est co-rédemptrice. Co-rédemptrice, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour être sauvé, vous pouvez passer ou par le Christ ou par Marie. Voilà ce qu'annonce l'Église catholique. Bon, c'est quelque chose d'épouvantable, hein, mais malheureusement, vous voyez à quel point là, on est à la limite du blasphème, sinon même dans le blasphème. Hein. J'espère que je ne choque pas les catholiques en disant ça, ce n'est pas mon désir, je suis un ancien catholique, mais quand j'ai découvert ça, ça m'a vraiment choqué, quoi. Donc, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et par lui seulement. Il y aura d'autres versets, vous connaissez, hein. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom. C'est clair. Je ne sais pas, mais quand Luc a écrit ça, là, est-ce que Dieu lui a soufflé le dire ça parce qu'un jour ou l'autre, on allait donner d'autres sauveurs. C'est pas par hasard qu'il y a ces versets. Il y avait un doute que tôt ou tard, on dirait qu'il y a d'autres moyens d'aller à Dieu. Solus Christus, par Christ seulement, Jésus-Christ est aussi le seul médiateur. Donc non seulement seul sauveur, mais aussi le seul médiateur. Vous savez ça, je pense, hein. Il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Par exemple, dans l'Église catholique, hein, il y a donc les saints, qui sont des intermédiaires, hein, ben vous avez perdu vos clés, vous priez, ah, vous savez pas, ben c'est très bien, c'est Saint-Antoine. Il y a même Sainte Rita, j'ai découvert ça, Sainte Marie de la Mer. Sainte Rita, c'est pour les causes perdues. Alors là, c'est quand vous avez tout essayé, il n'y a aucun saint qui a répondu. Saint Christophe, les gens, peut-être moins notre génération, mais avaient dans leur voiture une petite médaille de Saint Christophe. Or, Saint Christophe n'a jamais existé. Non, on sait qu'il n'a jamais existé. Ça veut dire celui qui porte le Christ. Dans l'évangile, vous trouvez nulle part un passage où quelqu'un a porté le Christ. En réalité, ça vient d'une autre religion. Et donc, on avait un amalgame, enfin, c'est toute une histoire au 5e siècle, ce qui s'est passé, le mélange entre le paganisme et la chrétienté. Quoi. Et là, ça a été vraiment une catastrophe. Enfin, c'est un autre sujet. Un seul médiateur, merci Seigneur. La grâce seulement, et non pas les œuvres. Il fallait faire. La grâce seulement, c'est la bonté, c'est la générosité, la grâce de notre Dieu qui est la source du salut. Et c'est par cette grâce, ce don de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, qui nous donne la possibilité d'acquérir le salut. La foi seule, la grâce vient de Dieu, l'homme, tous les hommes ont la foi, mais pas forcément Dieu. Il y en a qui ont la foi dans le... D'accord ? Il y en a qui ont leur foi dans leur... D'autres dans leur football, là. D'autres... Tout homme. Mais à quoi servent ces foi-là ? Rien, quoi. Dieu a donné la foi à l'homme, et l'homme doit... par cette foi, chercher la vérité. C'est pour ça que les disciples disent « Augmente en nous cette foi, augmente la foi en nous. » On voit très bien que notre foi a besoin d'être augmentée jour après jour. Il faut demander au Seigneur d'augmenter notre foi, parce que c'est par la foi que nous captons, si je puis dire, la grâce de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous vous rendez compte ? Par les œuvres. Moi, j'ai cru pendant longtemps qu'il fallait faire. Alors, bien sûr, après, on parle des œuvres que Dieu a préparées pour nous, afin que nous les pratiquions. Alors, la religion, c'est quoi ? C'est toujours l'essai de faire des œuvres pour aller vers Dieu. C'est ça. Toutes les religions, hein. Toutes les religions. La foi chrétienne, c'est quoi ? C'est Dieu qui a fait un pas vers l'homme pour le sauver. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Ce n'est pas l'homme qui va vers Dieu, c'est Dieu qui est venu vers l'homme, bien sûr, avec la conséquence de la foi qui rend cela valable. À Dieu seul la gloire, SDG, ça c'est la devise la mieux partagée dans le monde protestant. Aucun dans le monde chrétien, un culte est rendu à un être humain, mort ou vivant, à un objet, à un symbole. Et savez-vous que quand Bach ou Handel écrivaient des partitions musicales, ils signaient en haut en mettant SDG, c'est-à-dire pour la gloire de Dieu. Bon, Bach, je ne sais pas si vous aimez Bach, mais moi, pour moi, c'est un frère, hein, vu ce qu'il a écrit, pas l'être autrement. Mais on voyait que tout ce qu'il faisait, c'était pour la gloire de Dieu, et effectivement, sa musique est tellement belle. Ecclesia semper reformanda, ça c'est donc le point noir de l'Église. À savoir que l'Église est toujours à réformer. Et malheureusement, alors qu'ils avaient bien commencé, ces cinq points capitaux, je dirais, l'Église n'a pas été plus loin. Et même, elle a condamné, l'Église protestante, hein, elle a condamné et persécuté ceux qui voulaient aller plus loin. Hein, nous sommes dans une Église baptiste, mais les baptistes ont été persécutés par les protestants. Il n'y a pas eu, c'est terrible, c'est dommageable au plus grand point, il n'y a pas eu un désir d'aller plus loin. Mais, vous savez, quand vous êtes dans une pièce toute noire et que vous n'avez qu'une bougie, vous ne pouvez pas tout voir. Hein. Ben moi, la réforme, c'est un peu ça. Il aurait fallu mettre les spots pour qu'on puisse vraiment tout voir. Et il y a beaucoup de choses. Par exemple, les protestants sont encore pédobaptistes, c'est-à-dire ils baptisent des enfants. Ce qui, bibliquement parlant, est une aberration, puisqu'il faut avoir la foi pour être sauvé et ensuite être baptisé. Et il y a plein de choses comme ça. Le pain et le vin, c'est pas clair chez Luther. Hein. C'est très compliqué dans sa tête. D'ailleurs, il a évolué. Et le plus terrible, enfin, une des choses terribles, et c'est un juif qui en a parlé, Luther était antisémite. Et plus il avançait en âge, plus il était antisémite. Au point que Hitler a repris certaines des données de Luther pour combattre les Juifs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, quand on voit tout ce qui a été fait, on peut dire merci Seigneur, c'est merveilleux. Tu as vraiment, tous ces événements, donné à l'homme la capacité de vraiment revenir à la source. Mais l'Église a besoin continuellement d'être réformée. Et nous avons tous besoin, moi le premier, d'être réformé, de dire. Ça, Robert, ça va pas. Ça, tel aspect de ta vie, c'est pas comme ça, c'est etc., etc. Ou ta foi sur ce sujet-là, t'es à côté de la plaque. Et ça, malheureusement, ben, les réformateurs n'ont pas eu cette pensée. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage parce que même aujourd'hui, dans le monde protestant, les bases qui étaient superbes sont en train de s'ébranler. Aujourd'hui, dans le monde protestant, en Allemagne, c'est là où... le pays de la naissance de la réforme, c'est quand même l'Allemagne, hein, avec Luther, et, etc. Et c'est là le pays où... Il y a une théologie libérale qui remet pratiquement tout par terre. On ne croit plus en rien. On ne croit plus en rien. Ou pratiquement plus en rien. Alors, si certains pays vont adopter la réforme et en tirer de grandes bénédictions, et ça, c'est notable, la France va être le pays d'Europe où la confrontation entre les réformateurs et leurs adeptes, les protestants, et le pouvoir royal ecclésiastique en place, va être à l'origine de terribles persécutions et de massacres organisés. Voilà, donc là, j'arrête pour cette première partie. Avez-vous des questions sur cette première partie? Est-ce que c'est clair? Est-ce que... Oui?
Luther était un antisémite, oui. Mais les catholiques l'étaient aussi.
Oui, mais alors pas du tout pour les mêmes raisons, mais oui, bien sûr, bien sûr.
En fait, c'était tout le monde qui était antisémite.
Oui. D'ailleurs, il n'y a que le mouvement évangélique du XXe siècle, enfin du XIXe siècle, qui a commencé un peu à réagir et à relire en partie l'Épître aux Romains, qui nous parle, et puis aussi tous les passages de l'Ancien Testament. Et un chrétien, pour moi, c'est quelqu'un qui doit aimer ce peuple et qui doit prier pour eux.
C'est toujours pareil. Ils avaient besoin d'argent, les Juifs en avaient, donc il fallait bien...
C'est-à-dire que moi j'ai un ami, un excellent ami, il n'est pas chrétien, il est juif, hein, vraiment, et puis bon, pour l'instant, il s'appelle Jonas, alors. Un dentiste. Et il m'a expliqué qu'à un moment, les Juifs étaient persécutés de partout. À Venise, il y a une place qu'on appelle la place du ghetto. C'est la première fois qu'il y avait un endroit, enfin la première fois, il y en a eu d'autres, mais un endroit connu, réputé, c'est la forge, un ghetto c'est une forge, où les Juifs étaient donc casernés, si je puis dire. Et ce mot ghetto, vous savez, les pogroms, etc. Donc les Juifs n'avaient le droit de rien. Ils n'avaient pas le droit de posséder de terre. Or, pendant longtemps... L'économie était d'abord rurale, pas de terre. Ils n'avaient pas le droit d'avoir des métiers importants, notaire, avocat, etc., etc. Ils n'avaient pas le droit d'être dans des armes, ils n'avaient pas confiance en eux. Rappelez-vous l'histoire de Dreyfus en France. Donc qu'est-ce qui leur restait? Eh bien, il leur restait ce que le monde catholique détestait, c'était les métiers de l'argent. Ben, c'est ce qu'ils ont fait, et puis ben... Ça leur a pas mal réussi, si je puis dire. Et puis bon, c'est des gens, pour moi, hein, je ne veux pas mettre les gens en route d'un pinacle, mais qui ont une capacité remarquable. Enfin.
Moi, il y a deux choses où je me pose des questions. Antérieure, le temple et les cathares. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut intégrer dans cette démarche de remise en cause de l'Église?
Oui. Il y a plusieurs... Moi, je connais... Enfin, j'en ai parlé avec des frères, puis j'ai lu quelques passages là-dessus. Bon, les Vaudois, sûr. Les Cathares, il y a des choses très positives. Les Bogomiles, pareil. C'est-à-dire que, bon, dans l'histoire de l'Église, hein, ça c'est très intéressant, c'est un peu intellectuel, un peu compliqué, mais il y a comme s'il y avait toujours eu un fil rouge de chrétiens authentiques. Alors, avec, bien entendu, des fois, des choses qui n'étaient pas très claires, il faut dire ce qui est. Hein. Les Cathares, bon, etc. Mais, plus important, salut par la foi. La foi dans l'œuvre de Christ, dans l'œuvre expiatoire du Christ. Et voilà.
Et le temple, alors?
Le temple.
Les Templiers.
Ah, alors non, ça c'est différent. Ça c'est différent.
Oui, on ne peut pas les intégrer.
Ah non, c'est catholique ça. Hein. Ça c'est catholique, c'est purement catholique.
D'accord. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut retrouver le fil qui nous a. Nous sommes issus des actes. nous sommes aussi issus des actes.
Des actes des apôtres.
Oui.
Ah oui, bien sûr, oui.
Alors,
oui.
Est-ce qu'on peut distinguer un fil dans l'histoire de l'Église ?
Alors, certains le font. Il y a un livre qui s'appelle L'Église ignorée, je crois, c'est ça, hein, qui raconte comment, dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des gens qui ont cru quand même à la base de l'Évangile, de la bonne nouvelle, je veux dire Évangile, à savoir le salut par la foi en Jésus-Christ. Voilà. Mais avec toujours... comme je disais tout à l'heure pour les protestants, l'église protestante aujourd'hui est pédobaptiste, et pas claire du tout contrôlant le pain et le vin. Bon, les catholiques pensent que le pain et le vin devient vraiment le corps de Christ lors de ce qu'ils appellent l'élévation. Je me rappelle quand j'étais gamin, le prêtre qui portait l'hostie comme ça vers Dieu, et donc l'hostie, un morceau de pain, azyme, devenait corps de Christ, vraiment corps de Christ. Sacré, ça devenait quelque chose de... C'est-à-dire, alors ça, c'est pareil, ça vient de religions autres qui sont entrées dans le christianisme à l'époque où on a persécuté les non-chrétiens. Avant, on a persécuté les chrétiens. Et après, on a persécuté les non-chrétiens. Et ils sont rentrés en masse dans l'Église avec toutes leurs croyances et ont apporté... Par exemple, moi, j'étais très intéressé par le culte de la Vierge Noire. Peut-être qu'il y a des Vierges Noires, vous avez peut-être été dans certaines églises. C'est Isis et Osiris, hein. C'est le culte d'Isis et Osiris qui était très fort à l'époque du christianisme. Il y avait deux cultes très forts, Isis et Osiris et Mithra. Un culte qui vient donc de la Perse, tout ça. C'est rentré en masse. Alors, si vous avez le temps, il faut lire un livre qui s'appelle Les Deux Babylones, d'un nommé Alexandre Hislop. C'est un gros bouquin, mais alors c'est... Il vous montre le bénite, la tonsure des moines, tout ça. Tout ça, ça vient du paganisme ambiant qui existait et qui est rentré dans l'Église. Voilà.
Dernier point, juste pour savoir, Victor Hugo, il était catholique ou protestant ?
Ah, il était... vous savez, Victor Hugo, il a évolué. Victor Hugo, il est né, il était royaliste. Il est mort, il était républicain. Alors maintenant, par rapport à Dieu, aux choses de Dieu, il y a des choses très positives quand même chez Victor Hugo. Moi, j'ai lu des choses de Victor Hugo, mais vous savez, c'était une foi qui n'était pas très bien déblayée, si je puis dire. Mais c'était un homme qui était déiste, ça c'est sûr, croyant en Dieu. Maintenant... Qu'est-ce que ça veut dire ?
Mais qui faisait tourner les tables.
Oui.
Oui. Oui, puis même, il avait... Bon. Oui. Mais ces gens-là, c'est dommage, parce que c'est des gens où leur ils n'ont pas... C'est ce terrible verset. Pour moi, c'est un terrible verset. C'est une prière du Christ qu'il adresse à son Père. Je te loue, ô Dieu, créateur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. C'est une prière du Christ envers son Père qui commence « Je te loue ». Mais en disant « Je te loue de ça », c'est la condamnation terrible pour les gens comme Victor Hugo et bien d'autres qui croient qu'ils peuvent tout pouvoir comprendre par leur sagesse et leur intelligence. Pour moi, c'est un des versets les plus terribles de la Bible. Parce que c'est une condamnation qui commence par « Je te loue ». C'est vrai, ça. Mais non, si vous croyez intelligent et que vous dites ouais, « Je peux comprendre par moi-même », vous vous condamnez, hein. Il faut être comme un enfant. Un enfant, c'est quelqu'un qui va accepter simplement ce qu'on lui dit. Mais la foi n'est pas un saut dans l'inconnu, parce que merci notre Dieu de ce que la raison... La foi est raisonnable. C'est bizarre à dire, hein, mais la foi, c'est très raisonnable. Je crois qu'on est en train de le voir entre nous. Et il y a des sujets nombreux. La foi, c'est raisonnable. Mais c'est toujours le pas de la foi qui précède la raison. C'est toujours la foi d'abord... Et puis après, le Seigneur, qui ne nous prend pas pour des crétins, hein, qui nous a donné l'intelligence, nous dit « Je t'ai expliqué ». Et il nous explique, pas tout, mais suffisamment pour que notre foi, je vois justement, c'est ce que Paul dit, « Je sais en qui j'ai cru ». Ça, c'est pour moi très important. Trop de personnes, même parmi de nos églises, ont une foi du charbonnier, comme on dit. C'est-à-dire, sans voir sur quoi repose ta foi, comme ils n'ont pas de dépôt, il suffit qu'il y ait un témoin de Jéhovah qui passe, ou un, je sais pas quoi, un mormon ou autre tout, qui leur bourre un peu la tête, et hop, ça part. Quoi. Les chrétiens doivent savoir en quoi ils croient. Il faut bûcher notre Bible, pardon, pour pouvoir savoir vraiment en quoi nous croyons. Sinon, d'abord c'est merveilleux, et puis c'est ce qui nous donne le roc de la foi. Voilà. Bien, je vais boire un petit coup. Oui, pardon.
C'est de savoir si, parallèlement à ce qui s'est passé dans l'Église, avant la réforme, d'autres mouvements, d'autres églises, autres que l'Église catholique.
Ah non. Ah non. L'Église, est un, l'Église catholique, c'est ce qu'on appelle une Église monolithique. C'est-à-dire que hors de l'Église, pas de salut. Hors de l'Église catholique, pas de salut. Et tout essai de s'échapper à ça, la persécution, et la destruction. L'Église catholique n'a jamais supporté, d'ailleurs c'est ce qui va se passer, on va le voir, que qui que ce soit pense autrement qu'elle, parce qu'il y a un accord entre l'Église et puis l'État. Le monde dans lequel nous vivons hein, a toujours eu une alliance entre l'Église, quelle qu'elle soit, hein, et l'État. Même partout, même dans l'islam, mais dans l'hindouisme, partout. Et en France, c'était très fort. C'est-à-dire que l'Église ordonnait les rois et les rois soutenaient l'Église. Donc, l'un et l'autre marchaient de pair. Pourquoi certains pays ont accepté, d'autres pas ? À cause du roi. Il n'y a pas tellement longtemps, j'étais avec mon épouse, on était se balader un peu là, et je me suis aperçu dans les pays du Nord qui sont protestants, ce qui a fait qu'ils sont protestants, ce n'est pas les gens, c'est les rois. Les rois avaient... certains rois sont devenus protestants. Alors par contre, tout le monde va être protestant, parce que c'est un roi, une foi et une loi. Il ne peut pas y avoir de roi, il ne peut pas y avoir deux fois, il ne peut pas y avoir de loi. Donc autrement dit, l'Église catholique, c'est un bloc monolithique, et il était hors de question de s'échapper. Si on s'échappait, on avait et l'Église et le roi. Et c'est ce qu'on va voir avec les protestants. Ça, c'est la sociologie qui nous l'enseigne, hein, l'étude de la manière dont fonctionnent les sociétés. Et c'est terrible. Et c'est partout pareil. Partout pareil. Toujours le même système. Donc certains pays ont accepté la réforme. Et le roi a accepté la réforme. Hein, c'est le Danemark, tous les pays du Nord hein, ont accepté la réforme. Hein, et puis d'autres pays comme la Suisse, l'Allemagne, etc. Mais tous les pays du Sud... beaucoup plus influencé par l'Église catholique, l'Italie, l'Espagne et aussi en partie la France. La France était entre les deux. Donc, comme souvent, c'est pas bon d'être entre le marteau et l'enclume. Hein. C'est là que ça fait mal aux doigts. Ah ben, c'est ce qui va se passer, quoi. C'est ce qui va se passer. Bien. On reprend. Ça va ou... C'est pas trop compliqué ? Dites-moi, hein, parce que...
Si on veut... Pour revenir à Luther antisémite, c'était les malédictions du Deutéronome que...
Alors ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est sûr, mais c'est pas à nous de le faire.
Non, mais l'homme fait...
Oui, mais quand même. Oui, c'est sûr. C'est sûr que le peuple juif est sous cette malheureuse et terrible... comment dirais-je... condamnation. Ouais. Mais malheur à celui qui en est l'instrument. Dans l'histoire de l'humanité, tous les pays, tous les peuples, ça c'est une autre histoire que je passe, tous les peuples qui ont tapé sur les Juifs ont tous été détruits.
Oui,
tôt ou tard.
C'est ce qu'il dit à Abraham.
Premièrement, les peuples, les régimes.
Ah oui, je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. C'est toujours actuel. Hein. Et Israël sera toujours une pierre pesante pour tous les peuples. Tous les peuples, ça c'est dans la Bible, tous les peuples qui ont voulu. Alors, c'est pareil. Alors, pour nous chrétiens, ça pose un problème. J'aime ce peuple, mais je ne suis pas obligé d'aimer sa politique.
Voilà.
On est d'accord ?
Voilà.
Ok. Mais j'aime ce peuple, je prie pour ce peuple. Et là, je sais qu'aujourd'hui, parmi les chrétiens, je passe un petit peu en dehors du sujet, mais c'est tellement merveilleux, il y a beaucoup de chrétiens en Israël qui font de l'évangélisation et sont très mal vus par les orthodoxes, par les juifs orthodoxes. Mais j'aime ce peuple. Mais c'est l'amour du peuple juif, pour un chrétien, c'est presque, j'allais dire, viscéral. Sa vie, quoi, c'est son cœur. L'antisémitisme, c'est pareil. L'antisémitisme, les bouquins de Sartre et autres, c'est inexplicable. Inexplicable. C'est une haine qui n'est pas...
Elle est viscérale.
C'est viscéral, absolument. Ouais. Bien. Ah, il y en aurait des choses à partager, mes amis. Hein. Voilà. Alors, continuons. Donc le Seigneur a dit, et c'était un peu ce que notre frère a dit au départ, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Et c'est exactement ce qui va se passer. Les chrétiens vont être persécutés. Et malheureusement, c'est inéluctable, les chrétiens seront toujours persécutés. Satan ne peut accepter la foi chrétienne, ni d'ailleurs le peuple juif, qui est aussi une démonstration historique de Dieu. Et donc, ils vont connaître la persécution. Alors, c'est les versets qu'on préférait qui n'existent pas, mais bon. Donc, après ce début merveilleux de la réforme en France, les choses ont commencé à se gâter. En une quarantaine d'années, d'édit en édit, les libertés de culte ainsi que les droits civils des protestants s'amoindrissent peu à peu. Puis, les premières persécutions surviennent, comme le massacre de Vassy. Alors, Vassy, c'est donc un temple qui, au lieu d'être à l'extérieur de la ville, vous voyez déjà, on acceptait que les protestants aient des temples, ils se réunissent dans ces temples, mais à l'extérieur des villes, pas dans la ville. La ville, c'était pour les catholiques. D'accord ? Et là, est-ce que la ville a grandi comme beaucoup de villes ? Ce qui fait que le temple de Vassy s'est retrouvé dans la ville, toujours est-il qu'il y a eu un massacre. On voit, puis c'était quand même assez terrible, hein, ça, homme, femme, enfant, il n'y a pas de pitié. Hein. Et donc, on sait qu'il va y avoir une cinquantaine de morts, et on peut considérer que c'est le prémisse des guerres de religion.
Les guerres. Ah si, c'est à l'est de
la France. Je sais plus.
Oui, c'est ce que.
Je sais plus.
C'est pas au sud, en tout cas.
Non. Et je sais pas si c'est. Il y a deux écritures, ça a changé, avec un Y ou un I. Bon, bref. Donc, c'est là qu'il va y avoir ce premier massacre. Vous voyez, on jette les gens. Enfin, c'est abominable. Hein. Bon. Mais, celui qui est le plus connu, malheureusement, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy. Donc, c'est dans la cour du Louvre. Lors d'un mariage, les protestants sont invités. Et, bien entendu, les catholiques vont en profiter pour donc massacrer. Et ça, c'est quand même un événement majeur de l'histoire de France, le massacre de la Saint-Barthélemy. Et c'est un massacre d'une partie de l'intelligentsia protestante en plus, par les catholiques. Au total, on pense qu'il y aura à peu près 4000 morts à Paris. 4000 morts, je ne sais pas si vous vous rendez compte. 4000 morts. Et ça va se répandre dans toute la France. Et qu'on considère qu'il y a à peu près... Alors c'est très difficile. Hein, à l'époque, il n'y avait pas... au moins 20 000 morts. Quoi. Hein, au moins 20 000 morts. Certains vont jusqu'à 30 000 morts. Vous vous rendez compte? C'est des chiffres énormes. Et là, vous avez la Seine. Et la Seine était pleine de cadavres et rouge de sang. La Saint-Barthélemy a été un massacre terrible. Terrible. Fait par donc l'Église catholique et le roi. Parce que bon, ça. C'est un véritable massacre. Et la terre de France est abreuvée par le sang des chrétiens réformés. Voilà. De François Ier jusqu'à Louis XVI. Hein. C'est-à-dire que tous les rois de France, hein, de François Ier, hein, 1515 hein, à peu près. Hein, jusqu'à Louis XVI, hein, donc 1789, hein, ça a été persécution, persécution, persécution. Tous les rois. Tous les rois. Alors, Henri IV, qui était protestant, il était un Béarnais de Pau. Et cette région-là était protestante. Le sud de la France était plutôt protestante. Donc, il est devenu catholique pour pouvoir être roi. Ah oui. Il fallait qu'il ait l'aval de l'Église catholique. Et s'il ne devenait pas catholique, il ne serait jamais roi. Donc il a choisi de devenir catholique. Voilà. Et on lui doit la fameuse phrase, Paris, donc la gouvernance, vaut bien une messe. De ce coup, il a été. Mais quand même, quand il a vu comment les protestants étaient persécutés, donc c'est par milliers, c'est pas quelques-uns, c'est par milliers, dizaines de milliers, il va donc éditer ce qu'on appelle l'édit de Nantes en avril 1598, qui accorde aux protestants la liberté de conscience et l'égalité. C'est-à-dire que déjà, les protestants n'étaient même plus considérés comme des êtres humains. C'était vraiment des animaux, quoi. Ils n'avaient plus le droit civil. Les mariages n'étaient pas valables. Un mariage fait par un pasteur n'était pas considéré. Donc, on disait qu'ils vivent en concubinage. S'ils avaient des enfants, les enfants étaient tous des enfants adultérins. C'était des bâtards. Donc, vous voyez, ça coûte cher d'être chrétien, hein, quelquefois. Hein. Pour nous, bon. Quelques problèmes avec nos familles, peut-être, les amis, et tout ça. Mais eux, c'était la mort. Hein. C'était une autre dimension. Hein. Donc, c'était dit, en réalité, autorise des protestants à exister. Il ne va pas plus loin. Ce n'est pas du tout un retour en arrière qui donne aux protestants un droit d'être vraiment comme une liberté de culte absolue et tout. Bon, il y a un compromis, un minimum, concernant une certaine liberté de culte. Retour à l'accès de charges et de professions, le droit de devenir des assemblées politiques, etc. etc. Donc, c'est pas la tolérance, mais c'est pas non plus la pleine liberté. Et puis là encore, malheureusement, à nouveau, peu à peu, édit après édit, les libertés accordées aux protestants par l'édit de Nantes vont se restreindre, comme une peau de chagrin. Le pouvoir absolutiste du roi va déclencher, pour n'avoir aucun opposant à l'Église en place qui le protège et qui le soutient, les terribles dragonnades qui s'apparentent à des pillages en règle. C'est-à-dire que là, on voit très bien ce que le poète a annoncé entre l'alliance entre le sabre et le goupillon. Effectivement, ni l'un ni l'autre ne tolère qu'il y ait une autre foi que le catholicisme. Et là, donc, ça va être absolument terrible. Les dragonnades, je suis certain que dans aucun livre d'histoire on en parle, alors que c'est des dizaines de milliers de morts. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, rappelez-vous. Alors, les dragonnades, ce sont des soldats du roi, qu'on appelle les dragons, ils portent bien leur nom, enfin, ou mal leur nom, je pense qu'il faut dire, mais ils vont vraiment être comme des dragons. Hein. Dragon, vous savez que c'est un des noms de Satan, le dragon ancien. Voilà, donc, ils font dans toutes les régions, et ils obligent les gens à se convertir, à revenir au catholicisme. Comment font-ils? Par la force. Hein. Voilà une copie exacte d'un original de 1686 qui montre le dragon missionnaire. Alors, on voit ici, bon, qui peut résister et bien fort, raison invincible avec un fusil, avec une croix au bout. Ces nouveaux missionnaires envoyés de par ordre de Louis le Grand, c'est Louis XV, hein, pour ramener les hérétiques à la foi catholique. Louis XIV, pardon. Les hérétiques à la foi catholique de la société, etc., etc. Donc la force passe la raison. Et bien entendu, il va y avoir des conversions en quantité, en quantité, en quantité. Parce qu'on ne peut pas, contre la force, parce que c'est pas simplement, on va voir tous les autres moyens que les dragons avaient la possibilité de faire pour que les gens se convertissent. Voilà, donc les missions du XVIIe siècle. Moyens sûrs et honnêtes, regardez bien les termes, moyens sûrs et honnêtes pour ramener les hérétiques à la foi catholique. Alors qu'est-ce que vous pouvez, vous avez la roue, j'en reparlerai un peu plus tard, terrible, hein. La roue, c'était un châtiment épouvantable. La prison, un lieu de conversion. Le fouet, qui est manifesté ici. La potence, les galères et le feu. Donc, aussi, beaucoup vont être mis à mort en temps pour des vifs. Il y a énormément de gens qui vont... Voilà donc comment les dragons, dans toute la France, en commençant par le nord de la France, d'ailleurs, Saint-Onge, là-bas, là-bas, en dessous de la Normandie, là, La Rochelle, c'est épouvantable. Rien que l'histoire de La Rochelle, c'est épouvantable. 28 000 personnes, 20 000 sont décédées. De mort, de faim, hein, parce que Bocuse, vous avez cette fameuse photo, image plutôt, peinture, excusez-moi, de Richelieu devant La Rochelle. Les Rochelais sont... Enfin, c'est une histoire épouvantable, La Rochelle. Donc, on voit comment les prêtres vont obliger les gens à se convertir. Et le nombre de ceux qui signèrent sous la contrainte d'une confession catholique va atteindre 400 000. On pense qu'il y a à peu près 400 000 protestants qui vont abjurer par la force, mais pas par le cœur, la foi protestante. Alors voilà des scènes de dragonnade. La persécution atteignit son apogée au moment des dragonnades. Cet infernal procédé de pression permettait aux militaires du roi, les dragons, de commettre les pires exactions logé chez les familles protestantes. Il s'y conduisait comme en pays ennemi, en Poitou, en Saintonge, et donc les gens étaient obligés de les loger, de les nourrir, de payer leurs soldes. Et les prisons du royaume regorgeaient de fidèles. La roue, les galères, le bûcher étaient chargés de martyrs. On torturait sans pitié pour forcer les conversions. Et donc un peu, les scènes sont abominables. C'est des, voilà. Donc là, ouais, il y a donc les soldats qui sont là. On violait les femmes, bien entendu. Les enfants étaient mis à mort devant les parents. Et là, vous avez le prêtre qui, bien entendu, propose. C'est terrible. Et je me dis, bon, on n'a pas connu ça. Je crois, je pense que vous connaissez Porte Ouverte, vous recevez, ce qui souffle nos frères là-bas, c'est terrible. Mais c'est vrai, mais la France a connu, je crois, pire. Parce que dans certains pays, il y a quand même. Là, c'était systématique. La France entière a été sous l'autorité de ces gens-là. Sous l'autorité de ces gens-là. Alors, les intendants des régions qui voulaient être plus royalistes que le roi disaient « Il n'y a plus de protestants chez nous. On les a tous massacrés. » Ou alors, ils sont tous devenus catholiques. Ils sont revenus à la foi catholique. Qu'est-ce que va faire le roi? Ah oui, un détail, mais sordide. Les enfants à partir de 7 ans étaient retirés de la famille, mis dans des monastères ou avec un système de jeu, donc le jeu de loi, on les faisait revenir catholiques. C'est-à-dire qu'on se servait d'un jeu pour apprendre aux enfants des protestants à redevenir catholiques. C'est abominable. C'est immonde, quoi. C'est abominable. Donc, puisqu'il n'y a plus de protestants en France, qu'est-ce que va faire Louis XIV ? Eh bien, il va signer la révocation de l'édit de Nantes. Il n'y a plus de protestants. Les intendants des régions leur ont dit, c'est fini, il n'y en a plus. C'était pas vrai, mais bon. Il fallait bien se faire un peu. Hein. Bon. Il n'y a plus de protestants, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Qu'est-ce que va faire l'édit de Nantes, révoqué par celui de Versailles? Eh bien, ça va être la démolition systématique de tous les temples. Tous les temples, il y en a des milliers. Vont être tous détruits. Ça, c'est celui de Charenton. Charenton, c'est à l'est de Paris. Et il y a une assemblée là-bas. On a un frère qui participe à notre pastorale. Donc, c'est la banlieue est de Paris. Ça touche Paris. Hein. D'accord. Et donc, le temple de Charenton. Et puis, les pasteurs, c'est les empêcheurs de tourner en rond. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? Eh bien, c'est la prison ou les galères, j'en parlais tout à l'heure. Donc, les pasteurs sont systématiquement emprisonnés ou exécutés. Alors, les femmes extraordinaires, ces femmes prisonnières pour leur foi, donc trois grandes prisons, ça, c'est... excusez-moi. Sommières, oui. C'est là où il y a ma fille, pourtant. Ouais, je me rappelle. Une de mes filles habite là. Sommières, c'est dans le Gard, vous voyez. Ça, c'est Cré, dans la Drôme, peut-être vous connaissez. C'est là que les femmes qui participent à des réunions vont être enfermées. Et puis le troisième, peut-être qu'elle est plus connue, c'est donc ici la tour de Constance à Aigues-Mortes. 30 mètres de haut, et c'est là que les femmes vont être prises et vont être mises en prison. Les prisonnières n'en sortent que pour le cimetière. Il n'y a pas, on ne dit pas à l'époque, condamné pour 5 ans de prison ou 10 ans de prison. Hein. C'est à vie. On peut imaginer la pauvreté, la promiscuité, le manque d'hygiène pour ces femmes qui étaient donc prisonnières pendant toute leur vie. La plus connue d'entre elles, peut-être vous connaissez, donc c'est Marie Durand. Ça vous dit, vous ne connaissez pas ce nom. Hein. C'est une femme qui a passé 38 ans en prison. 38 ans en prison. Et régulièrement, on lui demandait d'abjurer sa foi. Et si elle abjurait, elle pouvait sortir. Elle a résisté. D'ailleurs, il y a une plaque en souvenir de cette femme. Sur la margelle du puits, j'ai été là-bas, à la tour de Constance, j'ai visité. Il y a une plaque de verre qui protège. Ils ont gravé résister, ce qui veut dire donc résister. Quoi. Résister. Donc ces femmes qui étaient prisonnières ont donc manifesté leur attachement au Seigneur malgré toutes les persécutions. Moi, franchement, hein, on peut tirer le chapeau, comme on dit. Hein. Vraiment, c'est quand même extraordinaire que ces femmes aient pu résister ainsi. Et vous avez... alors, même celle qui avait des bébés. Hein. Allez, la femme et le bébé. Ce qui fait qu'il y a une femme qui a été emprisonnée. Je vous en parle un petit peu après. Bon, donc c'est en 1768 que le prince de Beauvau, qui visitait donc cette tour immonde, a demandé à ce que tout soit libéré, malgré qu'il est passé au-dessus de l'autorité royale, quoi. Et ça, c'est un timbre-poste qui a été mis en 1968 pour commémorer le 200e anniversaire de la libération de ces prisonniers. Je crois que le record, ça doit être 70 ans, quelque chose de genre. Une femme, bébé, elle était en prison, elle est sortie pratiquement à la fin de sa vie, quoi. 70 ans de prison, je crois. C'est terrible, abominable, hein, abominable. Donc, à la mémoire du pasteur Pierre Durand, alors Pierre Durand, c'était son frère, c'était aussi un protestant très... condamné à mort et exécuté à Montpellier, donc à l'âge de 32 ans, et de sa sœur Marie Durand, prisonnière de la tour de Constance pendant 38 ans. Et donc, Pierre Durand dit « Si mon sauveur veut m'appeler à signer de mon sang son saint évangile, que sa volonté soit faite », et elle, donc, le fameux résister, gravé sur la... Bon, j'ai l'impression, quand je dis ça, on rappelle des faits historiques, mais on peut imaginer les pleurs, la souffrance, des choses terribles, quoi, vraiment, que ces gens ont connu en France. J'ai personnellement, mais c'est mon avis, hein, je pense que la France est un pays qui est sous une malédiction. L'histoire de France a toujours été l'opposition à Christ. Ça a commencé à Lyon. Les premiers évangélistes ont été mis à mort tout de suite. Donc Potin, s'appelait Potin, Blandine, peut-être vous avez entendu parler de Blandine, donnée au Lyon, etc. Enfin bref, c'est épouvantable. Le christianisme en France a eu énormément de mal à s'implanter. Quand il s'est implanté immédiatement, donc il est devenu catholique, c'est-à-dire complètement détourné. Après, on a eu donc ces dizaines de milliers de morts. En France, c'est le pays où il y a eu le plus de morts à la Réforme. Et après, alors ça c'est... la rafle du Veldiv, hein. L'attitude de la France envers les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quoi. Pétain a été plus loin que ce que demandaient les nazis. Incroyable. Je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. Et moi je pense, mais c'est peut-être personnel, et je suis tout à fait d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein, mais je pense que la France est vraiment sous une malédiction. Et on va le payer cher. Et on va le payer cher. Malheureusement. Les hommes qui étaient pris, eux, étaient donc envoyés aux galères. Alors, c'était épouvantable. Donc, ils étaient arrêtés. Souvent, lorsqu'ils étaient dans des réunions interdites, ils passaient donc des semaines au cachot. Après, ils étaient maltraités, on les forçait à abjurer. Et s'ils refusaient, ils étaient flétris. C'est-à-dire marqués au fer rouge sur l'épaule droite, des lettres G-A-L, donc galériens, voilà. Et après, ils étaient emmenés, attachés les uns aux autres, dans un sens et dans l'autre, jusqu'à Marseille, puisque c'est à Marseille qu'il y avait donc les galères royales. Et donc, normalement, là c'est pareil, ils n'étaient pas galériens pour un ou deux ans, ils étaient galériens à vie. Qu'est-ce que j'aurais fait? Parce que là... c'était oui ou non, hein. J'acceptais ou j'acceptais pas. C'est pour ça que trop souvent nous sommes des petits plignous, excusez-moi le terme. Des petits problèmes. Mais quand on voit ce que ces gens-là ont connu et vécu, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de se plaindre parce que j'ai mon petit problème ceci, mon petit problème cela. Vraiment, aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes en train de nous endormir parce que nous croyons que tout nous est dû et les églises deviennent des lieux de consommation. On consomme, et on ne donne plus. C'est terrible. Donc, c'était des suppliciés. Ils étaient donc envoyés aux galères. Alors, dans une galère, donc, bon, je vous passe les détails. Le problème, c'est que vous êtes attaché. Si vous combattez, que le bateau coule, vous coulez avec. Hein. Et quelqu'un, une fois, j'ai passé ça de très nombreuses fois, quelqu'un qui connaissait l'histoire m'a dit, les prisonniers de droit commun étaient détachés lors des guerres, des batailles, les chrétiens étaient restés attachés. Donc, vous voyez, entre les dragonnades, les femmes dans les prisons, les hommes dans les galères, alors, ce n'est pas quelques-uns seulement, hein, puisque au musée du désert, je pense que vous connaissez le musée du désert, oui, c'est un endroit dans le sud de la France qu'un chrétien doit aller voir, parce que c'est notre musée, hein, qui raconte un peu tout ça. Vous avez ici une plaque avec le nom de tous les galériens, à la mémoire sacrée des 5000 galériens, 5000, l'histoire de France n'en parle pas, qui souffrirent et moururent pour leur foi, hein, de 1684 à 1725. Et quand vous allez là-bas, vous avez plein de gens qui regardent, et moi j'ai été avec des amis anglais, et ils cherchaient le nom de leur antécédent, c'était Blanchard. Et ils ont trouvé une famille Blanchard, enfin un Blanchard, peut-être pas de leur famille, mais voilà, d'accord. 5000 galériens, pratiquement, ils sont tous morts, enfin, ils sont tous morts, eux, c'est sûr. Alors certains peut-être, se sont peut-être sortis, mais la majorité est morte sur place, quoi, dans les galères, quoi. Mauvais traitement, imaginez le froid, enfin bref, tout ce qu'il peut y avoir en mer. Donc la mémoire sacrée, hein, de ces 5000 galériens. Alors, les martyrs, tous ce sont des martyrs. Vous avez donc dans ce musée une place spéciale réservée aux prédicants et pasteurs martyrs morts pour la défense de l'évangile de la liberté. C'est-à-dire que beaucoup de pasteurs n'ont pas voulu partir. Ils sont restés sur place. Donc Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes, on a parlé tout à l'heure. Il va faire démolir les temples, on a parlé, et il va donner 15 jours aux pasteurs pour quitter le royaume. Sinon, la roue. Certains restent. Certains qui étaient partis reviennent. Clandestins, hors la loi, incroyable. Hein. Et d'autres, alors des laïcs, c'est-à-dire que dans les églises, puisque malheureusement, les pasteurs étaient en prison, etc. Ce sont les autres qui se sont levés. Comme vous n'avez pas le titre de pasteur, on les appelle les prédicants. Les prédicants, parce qu'ils apportaient la prédication, d'accord, vous comprenez. Et donc là, vous avez prédicants et pasteurs martyrs morts pour la défense de l'évangile et de la liberté. Et donc, le supplice pour eux, c'était la roue. La roue, c'est abominable. La personne était donc attachée, comme on le voit ici, sur une roue. Et on brisait les membres et la personne mourait de souffrance. Quoi. Voilà. C'était la roue. Quand on dit que quelqu'un, c'est une expression française, est roué de coups, ça vient de cette histoire, là où il y avait donc cette roue où les gens, les pasteurs et les prédicants étaient attachés et roués de coups. Donc, croyez-moi, ça devait avoir un effet dissuasif sur les autres. Mais qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais continué? Qu'est-ce que j'aurais fait? On se rend pas compte de la liberté qui est la nôtre. Hein. Je suis venu là tranquillement, je vois l'adresse, je peux tranquille, je suis accueilli gentiment par mon frère, je vous vois, je suis tranquille, tout impeccable. Quand on voit ce que ces gens-là ont connu, est-ce qu'on vit un christianisme trop facile? La moindre petite contrariété, là, bon, c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux, je pense que mon frère doit être un petit peu déçu. On trouve toujours une excuse. Eux, ils n'ont pas trouvé d'excuse. Hein. Ils ont été à fond. Hein. Et là, il y a un truc qui m'a touché profondément quand j'étais là-bas, c'est ça. Un prédicant inconnu. C'est notre soldat inconnu. Le soldat inconnu, il est vraiment inconnu. Oui ou non ? Est-ce que ce prédicant inconnu est réellement inconnu?
Pas de Dieu.
Très bien, mon frère. Il est connu de Dieu. Et c'est bien le principal, n'est-ce pas? Oui. Hein? Qu'il soit inconnu des hommes, c'est tant pis pour les hommes. Certainement un homme qui faisait du bien, puisqu'il annonçait l'évangile, et qu'il en a subi les conséquences, qu'il en est mort, le pauvre. Mais il n'est pas inconnu de Dieu. Est-ce que nous sommes inconnus de Dieu? Oui ou non? Ah, vous me faites peur, là. On a un relevé d'état civil, là-haut? Ou pas? Est-ce qu'on a un relevé d'état civil là-haut? Ben oui. C'est le livre de vie. Le Sefer Chaim. Vous connaissez l'histoire du livre de vie? Ah là 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 là. Il faut lire. Bossez votre Bible. Cherchez toutes les occurrences du livre de vie. Le livre de vie, c'est le livre où nos noms sont écrits, mes amis. On a un relevé d'état civil dans le ciel qui s'appelle le livre de vie. Et un rabbin, parce que j'ai des amis rabbins, un rabbin, à la prière de Hanouka, donc la fête de la lumière, termine en disant au Yom Kippour, je ne sais plus laquelle, bref, c'est pas grave, que vos noms soient écrits dans le livre de vie, dans le Sefer Chaim. Le Sefer Chaim, c'est le nom ou l'endroit où nos noms sont écrits. C'est pour ça que dans le livre de l'Apocalypse, tous ceux dont le nom ne fut pas trouvé dans le livre de vie furent jetés dans les temps ardents de feu de soufre. Un intérêt est écrit, hein. Moïse était écrit. Ah, Moïse. Son nom était écrit. Et Dieu, à un moment, il a tellement soupé de ce peuple qui s'oppose continuellement, qui est toujours en train de regimber, qui est toujours en train de... etc. Dieu dit, je vais le détruire. Et dit à Moïse, c'est de toi que surgira une nouvelle postérité. Et Moïse, il dit à Dieu, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Si tu fais ça, je ne suis pas d'accord. Je préfère que mon nom soit effacé du livre de vie. Ah, il me plaît celui-là. Ça, c'est un combattant pour Dieu. Il dit à Dieu, tu ne peux pas faire ça, et je préfère que tu retires mon nom du livre de vie plutôt que tu me donnes une descendance pour remplacer ton peuple. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Ah, c'était des gens, quand ils parlaient avec Dieu, ça chauffait, hein, c'est du moins de terme, mais ce n'étaient pas des gens, des petites prières douceâtres. Hein. C'est ça. Et Dieu cherche des hommes, des femmes qui se tiennent à la brèche, qui se bagarrent comme ça. Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Bien, bref, donc voilà, le supplice de la rousse, c'était abominable. Voilà, donc les héros de la liberté, c'est une peinture récente, mais regardez cette femme-là, avec son bébé, elle a peur. Alors, comme il n'y avait plus de temps, puis il se réunissait un peu partout. Il se réunissait n'importe où, à la limite, dans des grottes, il y a des histoires terribles. Bon, je ne peux pas tout vous dire, il faudrait 3 jours. Il se cachait dans des endroits comme ça. Alors le pasteur est là, avec sa petite blanche, là, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Et donc les femmes, tiens, où sont les hommes? Ben les hommes, ils ont été pris. Hein. C'est pratiquement des assemblées que de femmes. Bon, en plus de ça, les femmes sont plus spirituelles, oui, je l'accorde. Si, si. Quand on voit le nombre de femmes et d'hommes dans les églises, bon, bref. C'est l'inverse de l'islam. Dans une sourate, il est dit que, parce que j'ai lu le Coran, bien sûr, il faut un peu quand même connaître un peu les choses, que Mahomet a regardé dans l'enfer, il a vu qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. C'est sympa pour les dames. Mais c'est pas vrai, bon, c'est pas vrai. Bon. Mais c'est vrai que je trouve que les femmes ont souffert. Hein. Les femmes ont vraiment souffert, elles ont tenu. Donc cette femme a peur, je la comprends. Elle est stressée, si elle m'en apprend, son bébé et tout, bon, c'est terrible. Alors, c'est ce qu'on appelle le temps du désert. Alors, les assemblées du désert, peut-être avez-vous entendu ce terme. Ça, c'est une lithographie de l'époque. C'est à Lec. Lec, c'est une petite commune à côté de Nîmes. Alors, le désert, parce que ça rappelle les 40 années de désert, où le peuple juif était en dehors du temple, il était dans le désert. Et eux, c'était pareil. Ils étaient en dehors du temple, etc. Donc, ils se réunissaient dans des endroits isolés, dans des cavernes, dans des grottes, des ravins, un peu partout, surtout dans les Cévennes, mais aussi dans le Languedoc, en Poitou, en Dauphiné, Vivarais, toute la France quand même un peu, comme ça. Et ils vivaient un peu ces années que les Hébreux ont connues, dans le désert, les tribulations, les tentations, aussi du désespoir. Et puis, bien entendu, il fallait toujours se méfier. Alors c'est un détail un peu étonnant, c'est que le pasteur veut quand même avoir sa chair. Alors il y a un tombereau qui l'a amené, parce que quand même, hein, il y a un minimum de respect. Hein. Bon, ça fait un peu bizarre, mais enfin c'est comme ça. Mais puis vous aviez donc les gens étaient nombreux, hein. Regardez un peu. Ils étaient plus nombreux que nous. Hein. C'est drôle, hein. Ils étaient vraiment nombreux. Hein. Bon, j'ai dans la région de Nîmes, je connais bien. Hein. Il y a beaucoup de protestants à l'époque. Hein. Maintenant, ça a un peu changé, mais quand même, c'était une région vraiment... À Nîmes, je ne sais pas où il y a d'églises, mais une ville comme Nîmes, je pense qu'il y a au moins une dizaine d'églises. Oh oui, protestantes, hein, évangéliques. Hein. Bref. Donc, il fallait se méfier. Alors, il y avait un truc. Ils avaient les parapluies. Ça s'appelle un encas. Donc, parapluie ouvert, tout va bien. Parapluie fermée, démandade générale. Alors, il y en avait un là, puis il y en a un autre ici, qui surveille, et vous avez aussi le moulin. Selon la manière dont les ailes du moulin étaient orientées, ça voulait dire, attention, dragon en approche ou pas. S'il se faisait prendre, le pasteur était mis à mort pratiquement dans l'instant ou peu de temps après, et puis les femmes, eh ben, on a vu tout à l'heure comment ça se passait. Quoi. Vous auriez été, vous, là-bas ? Est-ce que j'y aurais été ? Ou est-ce que je serais resté chez moi, gentiment, tranquille, disant après tout, j'ai pas besoin d'aller à l'église, je peux vivre ma vie chrétienne tout seul. Robinson Crusoe, c'est pas bon pour les chrétiens. Hein. Les chrétiens Robinson Crusoe, c'est pas tout à fait biblique, ça, mes amis. Hein. Et bien, ils y étaient, et puis quelquefois, ben, ils se faisaient prendre. Et j'ai des récits où toute la communauté a été embarquée et était mise à mort ou en prison, etc. Quel courage ils avaient. Et alors, il y a un passage, je vais terminer avec, je crois, deux versets. Ah non, il y a encore d'autres choses. Pardon, excusez-moi. D'autres encore ont subi les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ça, c'est dans l'Épître aux Hébreux, qui parle des souffrances des chrétiens, enfin des chrétiens, des juifs. Ils sont morts, tués par l'épée, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas ni, ils erraient dans les déserts, dans les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Ça se répète. Ça se répète. Et ça se répète. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a encore des chrétiens qui connaissent ça. Hein? Vous voyez comment... le Seigneur nous avait prévenu qu'il y aurait des persécutions. Hein? Alors, l'exil des Huguenots français devint une grande source de bénédictions spirituelles et matérielles pour les pays du refuge. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens, lorsqu'il y a eu la révocation de l'édit de Nantes, s'ils avaient les moyens, ils fuyaient. Ça a été une fuite énorme. Énorme. Et ça appauvrit la France d'une manière définitive pendant au moins un siècle ou deux. On n'en parle pas non plus. La France a eu un retard, ce qu'on appelle la révolution industrielle, en pensant en histoire, par rapport à l'Angleterre et autres, et l'Allemagne. Mais la richesse de l'Angleterre et la richesse de l'Allemagne est due à quoi ? Aux Français exilés. On le sait aujourd'hui. Alors que je vous explique un peu ça. Donc, dans l'Europe, ici par exemple en Allemagne, les plaintes des protestants cruellement opprimés dans le royaume de France. Donc vous voyez, l'Europe entière connaît les souffrances des chrétiens français et donc sont malheureux, sont tristes, sont étonnés, scandalisés, voire même, de ce qui se passe dans le royaume de France. Cologne. Alors, la population de la France à l'époque est d'à peu près 20 millions. Protestantes, 800 000. Il y a déjà beaucoup de partis. Hein. Protestants immigrés, environ 200 000. C'est-à-dire 25%. Un protestant sur quatre va donc partir. Ce sont les immigrés. On parle beaucoup d'émigrés aujourd'hui. Hein. Malheureusement, tous n'apportent pas quelque chose de positif dans notre pays, alors que là, tous ceux qui sont partis à l'étranger, malgré l'interdiction du roi de sortir du royaume, regardez, ça c'est abominable. Quand je vois ça, ça me retourne le cœur. Louis, par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Je ne pense pas qu'il était roi par la grâce de Dieu. Hein. Vu ce qu'il faisait. Bon, bref. Donc, les Français vont partir en grande partie hein, vers l'étranger. Alors, voilà les lieux de refuge. Donc, la Suisse, la Hollande, l'Angleterre, et puis donc les États-Unis, et puis l'Allemagne, etc. Et puis, quand il va un petit peu partout. Il y a un peu partout. La France va ensemencer un peu, et on a les chiffres. Donc, 50 000 en Angleterre, 65 000 en Hollande, en Allemagne, etc., Russie, Afrique du Sud, Guyane. Et l'Amérique, New York, a été fondée par les Français, enfin en grande partie. 300 000 protestants vont s'exiler, apportant une vie intellectuelle, politique et un savoir-faire dans les pays voisins dits du refuge. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont partis, c'est des gens qui avaient un peu d'argent. Quand ils sont partis, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'était tous des commerçants ou des artisans. Ils avaient un peu d'argent. Ils ont emmené tout. Ils ont tout emmené. Donc la France s'est appauvrie de manière terrible et les autres pays ont bénéficié du savoir-faire. J'ai des récits que j'ai lus par exemple, en Allemagne, mais les Français réfugiés en Allemagne ont amené au niveau de la culture des produits, des légumes. Incroyable. Dans d'autres pays, ça va être l'horlogerie. La Suisse. L'horlogerie suisse, elle vient d'où ? Elle vient de France. Toutes les grandes marques de l'horlogerie suisse, c'est pas la mienne, hein, c'est peut-être pas une marque importante, ça vient de France. Il y a eu, pour les autres pays, non seulement spirituellement, mais aussi économiquement, une grande bénédiction. Voilà. Voilà les chemins de l'Exode. En mots, vous avez les pays où ils ont été. Donc, j'ai les chiffres, hein. Je les ai lus tout à l'heure. Hein. Vous voyez, c'est pas quelques centaines seulement. Hein. C'est par milliers. Hein. Et tous ces pays ont connu des bénédictions. Tous ces pays ont été bénis. Ça, c'est en Allemagne. C'est un peu enjolivé, je crois. Mais enfin, il y avait aussi l'aristocratie française hein, qui est partie là-bas. Ça, c'est une photo que j'ai prise en Allemagne, à Berlin. Je me balade et je vois une plaque ici. Parce que je suis toujours en train de fouiner. Et puis, je vois l'église huguenote. Ce sont les protestants français, quand ils sont partis, donc chassés, qui ont construit cette église. Une belle église, hein. Et on a dans cette église, j'ai discuté avec la dame qui s'en occupait, c'était en langue française jusqu'au siècle dernier. On parlait, le culte était donné, parce que ça fait un peu église, hein. Le culte était donné en français. Et puis bon, maintenant, tout le monde parle allemand, donc voilà. Mais c'est une très belle église, hein. Enfin, un très beau temple, pardon, excusez-moi. Alors, bien entendu, la ville où il y a le plus de réfugiés, c'est la Suisse, hein. Et place du Molard, en plein Genève, hein, vous avez une place très importante, qu'on appelle la place du Molard, et vous avez une plaque, vous avez donc le Huguenot qui est là, et la ville de Genève, avec les cultes de la ville qui le protège, etc. Et l'histoire du départ en Suisse, et ce qui s'est passé en Suisse, les Suisses ont été merveilleux, extraordinaires. Les réfugiés sont jusqu'à 20 par chambre. On croirait que les murailles de leur maison s'écartent à volonté. On leur donne ce dont ils ont besoin. Enfin bref, c'est la Suisse. Ouais, la Suisse a été bénie. Hein. C'est que la Suisse, au départ, avant la réforme, c'était un pays quelconque. Hein, médiocre même. Et puis, la bénédiction. Et bien entendu, là-bas, on sait très bien que la réforme, la foi protestante était très forte. Regardez comme c'est beau. Moi, je trouve ça, quand j'ai vu ça, ça touche le cœur, quoi. Heureusement qu'il y a des gens qui les ont acceptés. Hein. Bon, même en Angleterre, bon, je passe un peu, ça va pas être trop long. Alors, aux États-Unis, on pense qu'il y a eu 100 000 Américains d'origine huguenote, à l'époque d'un recensement après la Révolution américaine. Sur 1,5 million de personnes, donc près de 7%. Et on a du mal à savoir parce que les gens changeaient leur nom. Ah oui, quand ils passaient par l'Angleterre pour aller aux États-Unis, ils changeaient leur nom. Et il y a un David Croquemagne qui a changé son nom. Et tout le monde le connaît, c'est David Croquette. David Croquette descend des Huguenots. Mais voilà un exemple, ils en avaient tellement soupé de la France qui changeaient leur nom. Ils ne voulaient plus s'appeler avec des noms français. Et c'est pour ça qu'il a changé son nom pour devenir Croquette, et donc, au lieu de David, Davy. Et donc, voilà, c'est un descendant de Huguenot. Voilà. Mais on sait aujourd'hui qu'il y en a eu énormément, énormément. Et beaucoup de l'histoire des États-Unis se rapportent aux Français qui ont été là-bas. Et pas simplement que Lafayette, hein. Alors, un pays, Alors, voilà un pays aussi où il y a énormément de gnos. Alors, eux, c'est l'Afrique du Sud. Vous avez donc un monument avec trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, il y a 178 familles qui ont émigré en Afrique du Sud. Et ils ont, par contre, gardé leur nom. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui aiment un peu le rugby. Mais par exemple, vous avez plein de joueurs de rugby de l'équipe d'Afrique du Sud, comme Duplessis, Leclerc, Villon, etc., etc. Ils ont gardé leur nom. Et par exemple, une famille très importante, c'est les De Villiers, les Duplessis. Vous allez en Afrique du Sud, au Cap en particulier, vous avez énormément de noms français parmi la population. Voilà. 20% des Afrikaners, donc la population blanche là-bas. Alors, ils n'ont rien à voir avec les autres qui étaient plutôt pour la séparation, l'apartheid. Parce que, heureusement, ils avaient compris que ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Alors, tout va un peu s'améliorer, même beaucoup s'améliorer avec Louis XVI. De tous les rois de France, malheureusement, comme les Français ne savent pas compter jusqu'à 20, comme disait quelqu'un, Louis XVI, il a terminé, hein, vous savez comment. Mais Louis XVI, il a en 1787, donc 2 ans avant la Révolution française, l'édit de tolérance, hein, donc roi de France par la grâce de Dieu toujours, hein. Vous voyez, on voit très bien l'accord entre la royauté et l'Église. Hein. Il va donc signer cet écrit de tolérance, qui va atténuer les persécutions. À nouveau, les protestants ont un état civil. Savez-vous, par exemple, que les protestants n'étaient pas enterrés dans les cimetières? Peut-être des détails, mais comment ça va être dur. En Provence, on les enterrait dans le jardin, chez soi et tout, parce que le cimetière était considéré comme une terre sacrée. Et quand on mettait une tombe, on faisait pousser un nif pour se rappeler de l'endroit où était la tombe. Donc quand j'ai mes enfants là-bas, je vais là-bas, effectivement, du côté de Nîmes, tout ça, on voit encore de ces... Si vous allez un jour, il y a un bled qui s'appelle Poët-Laval. Poët-Laval. C'est à côté de Dieulefit. Les noms vraiment protestants, quoi. Eh bien, vous avez des tombes protestantes, une fois qu'ils ont eu l'autorisation. Il n'y a pas de croix, il n'y a que des versets. Je sais que mon réducteur est vivant, etc., etc., etc. C'est superbe. Ça, bon, je ne dis pas qu'on visite un cimetière avec joie, mais au moins, je me dis un jour, le jour de la résurrection, je crois que ces tombes-là, elles vont exploser. Parce qu'on voit que c'était des gens vraiment attachés au Seigneur. Alors, c'est des tombes qui datent de 1700, c'est quand même très, très vieux. Donc, l'édit de tolérance va donner l'autorisation, une reconnaissance quand même. Mais certains protestants veulent plus. En particulier, quelqu'un, voilà, l'édit de Versailles accorde un état civil aux protestants. Et celui qui est très connu, peut-être vous connaissez, c'est Rabaud Saint-Étienne. Alors, Rabaud Saint-Étienne, c'est un fils de pasteur, Paul Rabaud, militant pour les droits des protestants, et qui va regretter les limites de l'édit de tolérance de Louis XVI, et il dit « la reconnaissance n'exclut point l'espérance, elle l'autorise ». Et puis il dit « la tolérance, non messieurs, nous n'accepterons jamais une condescendance, nous voulons, c'est la liberté ». Il a été député du tiers-état, et il va être président de l'Assemblée constituante. Donc, c'est peut-être pas trop l'histoire de la France, mais à un moment, quand on a fait la Constitution française, c'est un de ceux qui va intervenir. Et à quel niveau va-t-il intervenir? Eh bien, au niveau de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On sait aujourd'hui que ces gens-là ont eu à cœur, en particulier à l'article 10, que je ne vois pas très bien, il doit être par là, disant que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. C'est ce qui se joue encore en France. En France, on est sous l'autorité de ces droits de l'homme et du citoyen, qui donnent en particulier l'autorisation donc de l'opinion religieuse, si elle ne trouble pas l'ordre public. Voilà, ça c'est en 1789. Il n'y avait pas que les protestants qui ont écrit ça. Il y a quelque chose qui voudrait attirer votre attention.
Non, les francs-maçons.
sont derrière tout ça, hein, en fait, sur beaucoup de...
Bah oui, sur beaucoup de choses, bah oui. David Schutz, c'est un pasteur qui a fait beaucoup de... Je ne sais pas, tu connais, non ? Il a été prof à l'IBG. Et donc, il a, parmi ses études qu'il a faites, il dit « Il est notoire que les notions de démocratie, de liberté et d'égalité des hommes ne sont pas venues d'abord des pays catholiques, mais des minorités persécutées qui avaient adopté la réforme. » Donc ça, c'est une enquête historique, effectivement. Alors par contre, maintenant, la liberté dans certains pays du Nord, comme la Suède, le Danemark et tout ça, ça devient un peu tout et n'importe quoi. La légalisation du mariage homosexuel, l'adoption d'enfants, etc. Bon, ben, des trucs qui deviennent maintenant... c'est plus de la liberté, c'est...
La licence.
Ouais, je sais pas comment on appelait ça. C'est ça, abominable, quoi. Terrible. Ce que l'on peut connaître des conséquences bénéfiques de la réforme nous enseigne que malgré les persécutions, la réforme aura changé le rapport de l'homme à Dieu. Voilà, ça c'est important. Et nous sommes les descendants de cette réforme. Soit directement, soit indirectement. Si nous existons aujourd'hui, c'est parce que ces gens-là ont tenu le coup. Et je suis heureux de voir qu'il y a des milliers, des milliers, des milliers, des millions de chrétiens authentiques qui sont les fruits de la réforme. Beaucoup d'entre nous ici, d'une manière directe ou indirecte, en sommes les bénéficiaires. Sachons en remercier Dieu et ayons envers ceux qui nous ont transmis dans des conditions si difficiles, c'est bien précieux, reconnaissance et portons à notre tour le flambeau de la foi. Quand on hérite, on aime bien que son héritage, on donne aussi aux enfants et ainsi de suite. Nous avons un héritage, hein, ma Bible, elle n'est pas là, mais bon, elle est dans mon sac, ben, c'est l'héritage que ces gens... Ah, il y a quelque chose que je dois vous dire. En parlant des traducteurs de la Bible, tous ont été mis à mort. C'est simple, l'Église catholique, sauf les Allemands, parce qu'ils étaient protégés par les autorités allemandes. En Angleterre, Jan Hus, comment il s'appelle en Angleterre ? Excusez-moi, Jan Hus, dans Bohème, mis à mort. Partout, j'ai pas tous les noms en tête, excusez-moi. Je me rappelle plus celui en Angleterre qui était... Enfin bref. En France, c'est Olivier Tan. Alors, je vais vous dire quelque chose, et que je suis certain que quand vous allez lire votre Bible, ça va vous toucher. Calvin avait un neveu qui s'appelait Olivier Tan. Et quand ils ont décidé de traduire la Bible en français... Ils ont fait une traduction qui s'appelle la traduction Olivetan, qui est connue, hein, qui est une traduction ancienne, avec des mots anciens, donc qui n'est plus très, très à la jour, parce que les mots changent, leur valeur change et tout. Donc, c'est avec les Vaudois. On en a parlé tout à l'heure. Les descendants des Vaudois, avec les protestants, Calvin, et d'autres, ont dit, on va faire une Bible qui soit vraiment bien faite. Donc, ils ont confié ce travail à Olivetan. Et Olivier Tan a eu un problème de traduction. C'était concernant le tétragramme sacré. C'est-à-dire que Dieu, dans l'Ancien Testament, son nom, qui est imprononçable, pour les Juifs, hein, c'est YHVH. Peut-être vous connaissez. C'est ce qu'on appelle le tétragramme sacré. Il n'y a pas de voyelles. Vous savez que dans cette langue-là, il n'y a pas de voyelles. Donc, en fonction des voyelles que vous mettez, ça peut se dire Yahvé, Jéhovah, Yah, enfin, ce que vous voulez. Puisque de toute façon, il n'y a pas de voyelles. Donc vous mettez les voyelles que vous voulez entre Y, H, V, H. Comment traduire ce mot ? Pas Dieu, puisque c'est un autre mot. La traduction mot à mot, ça serait, comme c'est un psaume chanté par les Juifs, Hayer et chez Hayer, c'est-à-dire je suis celui qui suis. Mais mettre ce nom et. Je suis celui qui suis, a dit, toujours, ça serait un peu pesant. Donc, il fallait qu'il trouve un nom. Et vous le connaissez, ce nom. Quel est le mot qu'Olivier Tan a donné pour ce tétragramme sacré, l'éternel. Ça a été pour lui la meilleure traduction du mot de ce tétragramme sacré, qui veut donc dire Dieu. Et les Juifs ne le prononcent pas, parce que pour eux, tu ne prononceras pas le nom de l'éternel en vain. Donc, au-dessus, ils mettent Adonai. Ça veut dire Seigneur. Adonai. Ah, c'est bon. Et donc, Olivier Tan, ben, il l'a payé de sa vie. Il a été mort, il est mort empoisonné par le Saint-Office. Donc, maintenant, quand je lis ma Bible et quand vous lirez votre Bible, au moins, rappelez-vous, quand vous lirez le mot l'Éternel, sachez que cet homme, pour pouvoir donner cette traduction qui est parfaite, enfin, moi je pense que les divines, elles viennent de Dieu, hein, parce que je ne vois pas ce qu'on aurait pu mettre mieux, parce que l'Éternel, c'est ça, c'est celui qui était, qui est, qui sera, hein, c'est, et Yahshéréyé, ça veut dire ça, quoi. Eh bien, ils ont trouvé le moyen de l'empoisonner. Et je me dis, quand je lis ce mot, merci Seigneur de ce que tu as donné à un homme qui s'appelle donc... comment il s'appelle déjà, je l'oublie, non. Livetan, d'avoir cette pensée de cette si belle traduction. Vous voyez comme quoi il y a des choses extraordinaires dans nos Bibles, hein, merveilleuses. Vous voyez, ils l'ont empoisonné. Hein. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ça, c'est un passage de l'Ancien Testament dans Hébreux 11. Torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent celle-là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénus de tout, persécutés, maltraités. Et on l'a vu tout à l'heure, ils étaient dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, et on rend témoignage aujourd'hui encore, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. On doit dire, c'est un message d'espérance. Oui, ces gens-là auront leur part, comme nous aurons notre part, un jour auprès du Seigneur. Nous donc aussi, Hébreux 12, 1. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, je vais donner un nom, Olivetan, mais il y en a plein, des milliers, hein, des milliers, des milliers, des dizaines de milliers. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant les regards sur Jésus. Voilà. Ces gens-là sont pour nous de ces témoins qui nous ont précédés. Et nous sommes environnés par eux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à côté de nous, mais leur pensée est là. Et c'est pour nous un encouragement. Et à cause de ça, comme eux l'ont fait, ils ont rejeté tout fardeau, toute oppression, toute difficulté. Et le péché, quel était le péché qu'ils auraient pu faire? Oh, ça n'a pas été pour eux, comme nous, un péché de voler ou de tromper sa femme. Non, le péché qu'ils auraient pu faire, c'était de renier Dieu. Ils ne l'ont pas fait. Courons avec persévérance. Pas marchons, hein. Moi, je suis chrétien. Je marche. Non, non. Un chrétien, ça court. Quand on court, on se prend des murs, des fois aussi. Hein, mais bon, sinon, on peut marcher. On va moins vite. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Voilà. Donc, ça doit être un encouragement pour nous. J'arrête là. Il faut connaître ce qui s'est passé, parce que moi, un jour, je sais que je les verrai, ces gens-là. Ouais, ouais, ouais. Comment vous imaginez l'éternité, mes amis? Moi, je dis qu'on verra tous ces gens-là. Moi, je verrai Olivetan, et je dirai merci. Je verrai aussi Moïse, David, Abraham. Ça vous dirait pas une petite discussion avec Abraham de 5-6 siècles, non? Moi, j'ai déjà pris mon ticket, hein. Non, je plaisante. Comment? D'avant moi. Et respect de l'âge, s'il te plaît. Ah, d'accord. Voilà, donc, si vous voulez, ça va être pour nous un message. Il faut, quand on voit ça, quand on connaît ça, maintenant vous le connaissez, vous ne pouvez pas dire nos petites plaintes. J'allais dire à deux balles, mais c'est vrai. Je ne peux pas, par rapport à ces témoins, avoir une vie médiocre. Je ne peux pas me contenter d'un minimum. Et le Seigneur nous donne à chacun de pouvoir le suivre. Hein. Nous donne, c'est comme eux. Voilà. Avez-vous des questions? Oui, mon frère.
Un témoignage.
Oui.
Quand je prie, je me dis que j'arrive à l'Éternel, je tombe en adoration et plein de joie. C'est incroyable. Ça marche à tous les coups.
C'est normal, hein. Moi, je suis un grand enfant. Hein. J'ai 71 ans, mais je suis comme un gamin.
Parce qu'on serait dans le néant s'il n'y avait pas de Dieu.
Ouais,
on n'y penserait même pas.
Ouais. Moi, je suis. Mais oui, c'est bien. Mais oui. Moi, je suis très fier de mon Père Céleste.
Ah, moi aussi.
Très, très fier. Et quand je. Et vous, bon, je suis un gamin, mais je vous assure, je sais pas si j'en ai partagé l'autre fois, un truc qui m'a étonné, que j'ai lu comme vous, certainement dans l'évangile de Luc, un dénommé César Auguste. Attention, César Auguste, dans la tribu des Césars, c'était pas le moindre. Hein. C'était un César très important. Très important. Un peu fier de lui, certainement. Parce que il décide de faire un recensement. Vous l'avez lu, ça ? Qui décide de faire un recensement ? Qui est-ce qui a décidé qu'il devait faire un recensement ? Notre Dieu. Pourquoi ? Parce que s'il n'avait pas fait de recensement, le Seigneur Jésus serait né où ? Il serait né où ? À Nazareth. Très bien. Et en faisant un recensement, Dieu a donc donné cette idée à M. César Auguste, qui a ordonné aux familles d'aller dans leur famille d'origine. Comme Marie était de la famille de David, et Joseph aussi, quelque part, ils ont donc été obligés d'aller à Bethléem. Notre Dieu a donné l'ordre à César Auguste, qui a donné l'ordre de faire le recensement. Toute la famille est partie de Nazareth pour aller à Bethléem. Et le Seigneur Jésus, il est né où ? À Bethléem. Ce qui était écrit dans le livre de Michée. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les huit, tatatatatatata. Je suis très fier de mon Dieu. Il est très, très fort. Il est très, très fort. Et ce n'est pas fini. Bien, je vais prier. Merci Seigneur pour cette histoire de réformés et des Huguenots. Seigneur, de ceux qui ont été jusqu'au bout pour te servir, pour te suivre, qui n'ont pas craint la mort, qui n'ont pas craint la difficulté terrible qui leur était imposée. Ce sont des exemples pour nous. Ce ne sont pas des exemples de l'Ancien Testament qui sont déjà extraordinaires, mais proches de nous, ce ne sont que quelques siècles. Seigneur, tu nous dis que nous serons persécutés, comme ils ont été persécutés. Nous ne savons pas ce qui se passera dans notre pays dans 10 ans, dans 20 ans. Mais Seigneur, prépare-nous et donne-nous d'être forts comme eux, en ayant non pas les regards, les capacités naturelles, mais en ayant les regards sur Jésus. Celui qui nous encourage, celui qui nous fortifie, celui qui nous donne de passer tous les obstacles. Que ton nom soit béni. Et c'est vrai, notre Dieu, on peut être très fier de toi. Tu es un Dieu extraordinaire et merveilleusement puissant. Que ton nom soit béni.